Fiche.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, après la voix charmeuse de Monique, Nicolas avec nous, super, hein, tu peux
bonjour
aujourd'hui.
Je vais bien.
Et puis Gérard Mordilla, bon, je pense que pas mal d'auditeurs le connaissent. Bon, moi, comme d'habitude, je vais vous lire un petit peu un texte qui sera sur le site de pratiquement ce soir, demain matin. Ah non, il y est déjà, oui, c'est vrai. Mais avec ce texte, il y aura en plus l'enregistrement de l'émission d'aujourd'hui, voilà, avec Gérard Mordilla. Et bon, on l'a reçu un certain nombre de fois, et cette fois, c'est autour d'un livre qui est sorti il y a très peu de temps. Voilà. Vive la sociale, c'était le premier roman de Gérard Mordilla, paru il y a plus de 40 ans. Depuis, de nombreux romans, essais et films se sont succédés, dont Les vivants et les morts en janvier 2005, adapté à la télévision en 2010. Dans cette fresque sociale, un lointain groupe financier décide de se débarrasser d'une usine et de ses ouvriers. La petite ville de Rossel, dans le nord ou dans l'est de la France. Bon, on s'en fout. Moi, je la verrais bien dans le Nord, mais bon. Le Nord de la France soutient leur lutte pour la défense de l'emploi et de leur dignité. Aujourd'hui, chacun peut constater que le capitalisme continue à semer misère et injustice. Usines fermées, emplois délocalisés, villes sinistrées. Mais que sont devenus Rossel, ses habitants, Dallas, Rudy, Lorquin, personnages principaux de la lutte? Dans son nouveau livre, Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, Gérard Mordilla apporte la réponse. La mairie est passée au Rassemblement National, le cinéma et les commerces sont fermés, le dernier médecin est parti, Property, entrepôt de vente en ligne concurrent d'Amazon, emploie encore quelques centaines de salariés, enfin, pas beaucoup de centaines d'ailleurs, on verra. Dallas et Rudy sont contraints de revenir s'installer à Rossel, ville fantôme dans un écour de neige et de verglas. Ils sont hantés par la disparition de son plutôt de leur fille Eve, qui s'espère vivante. Ils sont confrontés au contexte social et politique actuel. Travaillant CDD ou intérim, auto-entrepreneuriat, difficultés de résistance collective, présence de l'extrême droite utilisant violence et infiltration dans certains rouages de l'État. Écrit au présent, le roman les accompagne dans deux courts chapitres. Rencontre, amitié, amour et lutte en font des vivants. V majuscule. Les morts, M majuscule, sont ceux qui se résignent, choisissent l'individualisme plutôt que la solidarité, trahissent en espérant sauver leur peau, etc. Même si Gérard Mordilla a pu parfois regretter qu'il n'y avait pas assez de révolte. Alors, je ne sais pas où j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé un témoignage que j'avais fait il y a pas mal de temps. Une phrase de son livre rappelle, alors du livre dont on va parler, « Qui sème la misère récolte la colère ». Bon, c'est souvent Nicolas qu'on aime bien, qu'on a déjà vu, même sur des banderoles, voilà. Bon, ben merci Gérard de m'avoir pris temps, parce que c'était pas mal occupé en général. On a quand même pris la précaution de ne pas te solliciter au tout début de la sortie du livre, parce que j'ai vu que tu te présentais plein d'endroits. On a dit, on va avoir s'il a un peu de temps, et puis ça a été sympa, on t'a proposé une date, et t'as pu venir. Donc c'est aujourd'hui, voilà. Bon, je te propose quand même, si tu es d'accord, que tu rappelles quand même un petit peu, rapidement, mais les vivants et les morts. Alors, ceci étant, les vivants et morts, 20 ans plus tard, on peut le lire sans avoir lu le premier. Mais en même temps, tu as quand même des lecteurs comme moi qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Enfin, parce que, voilà. Et surtout que, d'ailleurs, j'ai vu que c'est 20 ans exactement. Elle a été bon, hein. C'est sorti en janvier, et deux fois, 20 ans pile poil.
Parce que, Quand on écrit des livres, il y a des livres que l'on arrache au réel, avec qui on lutte, avec qui on se bagarre, et puis qu'on finit par écrire, je dirais, à la force du poignet. Et puis, il y a d'autres livres qui vous sont donnés. Et « Les vivants et les morts, 20 ans plus tard », c'est un livre qui m'a été donné. Parce que j'avais commencé un roman, j'avais écrit un début que j'aimais beaucoup, et au-delà de ce début, je ne savais plus où j'allais du tout. Donc j'ai sollicité Jean-Étienne Cohen-Séa, qui était l'éditeur des Vivants et les Morts, et qui est toujours mon éditeur, pour qu'il me serve de sparring partner, qu'on discute de ce que j'avais écrit, et que je vois si soudain j'avais une réelle perspective, si j'allais écrire. Et Jean-Étienne a lu mon texte et m'a dit « Écoute, c'est très très bien, mais je ne crois pas que tu devrais faire ça. » Avant, j'ai dit « C'est pas si bien que ça. » Il m'a dit « Non, c'est pas ça le problème, c'est que tu devrais faire autre chose. » Ah bon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu devrais faire Alexandre Dumas. Alors je croyais qu'il voulait que j'écrive une bio de Dumas. Il m'a dit non, je crois que tu devrais faire Les vivants et les morts 20 ans plus tard. Et ça a été, c'est un peu ridicule de le dire comme ça, mais réellement une sorte d'illumination, de déflagration. J'ai su soudain exactement ce que je devais faire. Mmh. Parce que c'est vrai que Les vivants et les morts étaient parus il y a 20 ans, et qu'il suffisait que je me retourne pour mesurer 20 ans plus tard le travail du temps. Mmh. Surtout que cette histoire ne m'avait pas quitté. J'avais écrit Les vivants et les morts, j'avais fait l'adaptation en 8 épisodes pour la télévision, puis plus tard, avec François Morel et Tamar Nouval, le musicien, nous avions monté une version de théâtre musical des Vivants et des Morts, donc les personnages étaient toujours avec moi, toujours en moi, et donc ils avaient grandi, ils avaient vieilli en même temps que moi, et c'était soudain une évidence. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que le livre m'a été donné, parce qu'à partir du moment où Jean-Étienne Cohen-Séa m'a dit qu'il fallait faire ça, je l'ai fait, et je peux dire que j'ai travaillé 15 ou 17 semaines en ne faisant que ça, pour écrire la première version du texte, qui faisait quand même 500 pages.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a, enfin, on va parler du contenu, mais deux intérêts, enfin plein d'intérêts, mais deux intérêts principaux, c'est-à-dire suivre ces personnages, en particulier ceux qui les connaissent, parce que ce sont des personnages vivants, même si autour d'eux, il y en a d'autres qui sont, je ne sais pas, on va appeler les morts, enfin les gens qui trahissent et tout ça, bon. Et d'autre part, pour quelqu'un, effectivement, qui, même s'il n'a pas lu l'autre livre, voir l'évolution à la fois du capitalisme, de la façon dont on peut y résister, peut-être plus difficilement aujourd'hui, enfin je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, et ça aussi c'est assez intéressant.
Tu as cité une chose qui est le moteur secret de cette histoire. Rudy et Dallas ont eu deux enfants, un fils qui s'appelle Kevin, qui ne vit plus avec eux, il vit en Irlande où il va se marier, il a mis entre eux une langue et une mère, et puis ils ont une fille qui s'appelle Eve. Or, le jour de ses 16 ans, Eve n'est jamais venue à sa fête d'anniversaire. Elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Alors évidemment, ils ont cherché partout, ils ont interrogé les copains d'école, les profs, les voisins, les amis, la police s'en est mêlée, eux-mêmes, Rudy et Dallas, sont allés partout pour voir si elle était dans des squats, si elle était avec les punks à chiens, si elle était dans les distributions alimentaires, si elle était dans les sous-sols de la défense, etc. Rien, aucun signe, elle a disparu. Or, cette disparition incarne toutes les disparitions qui ont eu lieu depuis 20 ans. Mmh. Parce que lorsque Dallas revient à Russell, où elle avait juré de ne jamais remettre les pieds, elle y revient parce que son père est à l'agonie et il voudrait qu'elle soit là avant qu'il soit trop tard. Le père va disparaître. C'est une histoire qui disparaît. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que tu citais, la municipalité qui avant était centre-gauche, centre-droit, enfin utilité locale, est devenue une municipalité du Rassemblement National. Il y a d'ailleurs tout un groupe d'activistes d'extrême droite extrêmement actifs, si j'ose dire, dans cette municipalité. Ça a complètement changé. Il n'y a plus qu'un seul café, dont le nom sonne ironiquement, puisqu'il s'appelle l'Espérance. Il n'y a plus de cinéma. Et puis surtout, quand Dallas revient, elle ne connaît plus personne. Mmh. Parce que toutes celles de sa génération qui, il y a 20 ans, travaillaient comme elle à la cause, elles sont toutes parties. Dallas et Rudy ont été obligés de partir dans la banlieue parisienne pour essayer de trouver du travail. Il n'y avait plus rien. Donc il y a ce grand changement. Et cette disparition, eh bien, elle s'accompagne d'autres disparitions. Parce que Lorquin, qui était le grand leader de leur grève 20 ans plus tôt, est décédé. Et qui est à la tête de Property, cet entrepôt de e-commerce maintenant, c'est son fils. Le père était un syndicaliste extrêmement radical, le fils est un chef d'entreprise. Quelque chose a disparu. Mmh. Et quand Dallas va réussir à se faire embaucher chez Property, parce qu'elle doit travailler pour gagner sa vie, elle va découvrir aussi que là, la solidarité entre les ouvrières et les ouvriers a totalement disparu. Pourquoi ? Bien parce que les gens sont embauchés en CDD et le graal, le gros lot, c'est d'obtenir un CDI. Mais pour obtenir un CDI, il faut être plus performant que les autres. Donc chacun devient l'ennemi de l'autre. Et ça, ça a complètement changé. Et puis, autre changement qui est très profond, c'est qu'au moment où la cause, 20 ans plus tôt, employait un certain nombre d'employés, la majorité était des hommes. Il y avait des syndicats, il y avait des associations, etc., qui toutes étaient conduites par des hommes. Chez Property, la majorité des employés sont des femmes. Et donc, ça va tout changer aussi, parce que maintenant, Dallas va vivre dans un univers qui est un univers particulièrement féminin à l'intérieur de l'entreprise et au-delà de l'entreprise, parce que retrouvant la seule copine d'enfance qu'elle a, qui est encore à Rossel, cette copine qui est prof de français, organise tous les mercredis une chorale, dont le nom vous ira droit au cœur, puisqu'elle s'appelle les Glottes Rebelles, où il n'y a que des femmes. Donc voilà tous ces changements-là, avec toutes ces choses qui ont disparu. Donc la disparition d'Ève porte en elle le symbole de toutes les disparitions.
Oui, tout à fait. Je voulais, avant qu'on entre un petit peu plus dans ça, c'est parce qu'il y a ce qui est aussi très important, pour, y compris pour apprécier avec des guillemets, les changements en question. Évidemment, tout ça est incarné et par des personnages, alors à la fois ceux qu'on retrouve, tu en as cité, il y en a quelques autres, peut-être, qu'on va retrouver. Et puis aussi, des nouveaux, beaucoup de femmes. L'écriture les accompagne, si tu veux. C'est quand même important de dire ça pour un lecteur super futur, ou un lecteur peut-être qui l'a déjà lu, mais qui nous écoute. Alors, il y a à la fois... moi, je te dis comment j'ai ressenti, hein, lecture. Je parle là de la façon de lire.
Vas-y.
Voilà. J'ai ressenti comme... enfin, je ne veux pas dire presque comme un scénario, mais déjà, c'est des chapitres extrêmement courts. Et en même temps, c'est les personnages qui expliquent quoi, ce qui leur arrive, leurs contradictions, etc. Je trouve que c'est très vivant, en fait, dans le style. Quoi.
Mais, j'ai, en tant qu'écrivain, un fantasme de cinéaste. Mon fantasme, c'est celui-là, c'est d'imaginer qu'une lectrice ou un lecteur qui commence un de mes livres le lit sans discontinuer jusqu'au bout, comme lorsqu'on va au cinéma, qu'on s'assoit dans le fauteuil et qu'on regarde le film du début à la fin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois que, mais bien d'autres l'ont pensé avant moi, que le cinéma a quelque chose à nous apprendre sur le plan romanesque. Hein, John Don Passos, dans les années 30, avait déjà compris ça, la simultanéité des premiers, enfin bon, tout ça, ça existait. Et moi, je suis très sensible à ça. Et puis aussi, j'ai toujours eu en tête une injonction de John Huston, le cinéaste, à qui on demandait ce qu'était pour lui le travail cinématographique, et il disait « action, action, action ». Eh bien, moi, c'est la même chose, il y a de l'action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que il y a au fond, bon, je vais simplifier, mais il y a deux traditions littéraires. Il y a une tradition littéraire française où l'auteur est le personnage qui fait partager aux lectrices et aux lecteurs les pensées, les réflexions, les actes, enfin, toute une forme romanesque qui est toujours très introspective et où l'auteur domine l'histoire et c'est lui qui la raconte. Moi, ça appartient à une autre tradition, qui est une tradition plus anglo-saxonne, où au contraire, il n'y a jamais ni de commentaires, ni de réflexions, mais encore une fois, toujours de l'action, et que la psychologie des personnages apparaît à travers ce qu'ils font et à travers ce qu'ils disent. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a, j'espère, ce rythme suffisant pour lire l'histoire, parce que je l'écris aussi au présent. Bon, bien sûr, c'est facile, simplement pour souligner que c'est maintenant que ça se passe, mais parce que le présent est en français un temps très particulier qui induit une sorte de brutalité, de halètement, de choses comme ça, qui est l'état profond de mes personnages.
Nicolas, puisque Jean-Louis, oui, enfin, je ne suis pas obligé d'intervenir, mais Nicolas, il connaît très bien le cinéma. Puisque c'est
oui, alors, j'avais une question plus littéraire que cinématographique, mais donc j'ai vu cette citation de Franck Venaille, donc qui démarre le livre, à jamais différent de ceux pourvus de tout, extrait de La Descente de Lescaut, et je m'interrogeais. Je trouve que c'est un auteur que je connais, qui a fait beaucoup de radio, pas Radio Libertaire, mais à France Culture, et un auteur assez passionnant, mais très discret, assez peu connu.
Moi, je connaissais aussi, je n'ai jamais rencontré Franck Venaille, j'ai regretté d'ailleurs, parce qu'il était visiblement un grand amoureux du 11e arrondissement, où nous avons tous beaucoup habité. Et puis, il a écrit beaucoup sur la guerre d'Algérie, et puis c'est un poète absolument extraordinaire. Donc moi, j'étais un lecteur de Franck Venaille, et quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'il l'avait écrit pour moi.
Et qu'est-ce que tu penses de cette façon d'écrire, là, justement, ce qu'a dit Gérard?
Effectivement, quand Gérard cite Dos Passos, là, je vois très bien, où tu es, puisqu'effectivement, on est dans des choses comme ça, où il n'y a quasiment pas de psychologie, ou quelques traits comme ça, mais
enfin, il n'y a pas de psychologie psychologisante.
Oui, voilà, c'est ça. C'est l'action, c'est ce qui se passe, qui décrit, et qui fait avancer, et tout ça, effectivement, à voir avec le cinéma qui est de ce côté-là, quoi.
Avec une inscription très profonde dans le réel. Moi, je suis un auteur réaliste. Je décris très exactement ce que je raconte. Et d'ailleurs, j'étais il n'y a pas très longtemps à Dinard, à l'invitation de la Ligue des droits de l'homme, pour faire une projection de Mélancolie ouvrière, mais aussi pour parler de mon livre et tout. Et les militantes de la Ligue des droits de l'homme qui me reçoivent étaient stupéfaites en me disant « Mais c'est incroyable ce que vous décrivez dans votre livre sur l'espèce de milice fasciste qui intervient dans l'histoire, etc. Bah, vous avez raconté ce qui se passe chez nous. » J'étais étonné, je me dis « Comment ça chez vous ?» Elle me dit « Oui, là, à côté d'ici, à Pleurtuy, un petit village, il y a exactement ça. » Ils me font voir les photos des types, etc. Et elle s'était fait chasser du marché parce qu'elle distribuait des tracts en faveur de la Palestine. Elle s'était fait cracher dessus, battre, etc. Et la police municipale regardait voler les papillons et la mairie s'en lavait les mains puisqu'ils étaient au fond tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis un écrivain réaliste, parce que je décris ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Avec en plus cette chose qui appartient à la fiction, c'est que la fiction, pour moi, marche toujours un pas en avant de l'histoire. Et que nous sommes tous les uns et les autres pouvant être pris dans le sac d'être des lecteurs distraits. Or, ce qui s'écrit, c'est ce qui s'écrit aujourd'hui, mais ce qui s'écrit aujourd'hui, demain, sans faire de science-fiction, simplement parce que la description du réel porte en elle tous les signes qui sont les signes de demain.
D'accord, écoute, je sais pas, t'avais peut-être une question à poser. Moi, je proposais une pause musicale parce que il y a beaucoup de musique dans ton livre et puis aussi dans notre émission, Monique a travaillé, tout ça.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Est-ce que la crise est bientôt finie ou pas ? La reprise est-elle à l'horizon ?
C'est dans la rue que ça se passe, la compagnie Joli Môme. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Nicolas, tu rappelles notre invité.
Et donc avec Serge Monnet, nous recevons Gérard Mordillat pour son dernier roman « Les vivants et les morts » 20 ans plus tard. Clin d'œil à Dumas assumé.
Absolument.
publié donc paru chez Calman Levy au mois de janvier de cette année.
Le 2 janvier.
Le 2 janvier 2025.
Bah écoute, Gérard, puisque on a eu un échange sur ton livre, enfin et en plus ton approche à la littérature, en fait tu as la chance, j'avais lu que depuis tout jeune tu t'intéressais à la fois à l'écriture et puis aussi au cinéma, donc c'est super quoi, tu arrives à faire des choses, peut-être que ça fera aussi un film, mais oui.
Je ne connais rien de plus accablant que la monotonie.
Ce que je propose, c'est de démarrer par, par une première image, parce que c'est quand on commence à lire ça, je crois que c'est pratiquement la première page. Enfin, je me souviens pas absolument, mais enfin, en tout cas, je me rappelle que Dallas, comme tu l'as dit tout à l'heure, son père est très malade, donc elle revient à Russell alors qu'elle est jurée de jamais en revenir. Et elle descend du train. J'aimerais bien que tu décrives la scène parce que. Je pense que là, déjà, d'entrée, on voit où on arrive.
Moi, je n'écris jamais de livres. Il y a une chose qui m'est totalement étrangère, plus exactement, c'est le sujet. Mmh. Je n'écris jamais à partir d'un sujet. Ça ne me dit rien, ça ne me paraît rien, et ça ne me paraît qu'une invention des commentateurs qui sont incapables de faire un travail critique. Donc, ils inventent un sujet, ils font une rédaction là-dessus, ils ont l'impression d'être très intelligents. Moi, je n'écris jamais sur le sujet. Mais j'écris toujours à partir d'une image fondamentale que je vais m'expliquer à moi-même et expliquer aux lectrices et aux lecteurs. Dans 20 ans plus tard, l'image fondamentale est celle de Dallas qui donc revient à Russell. Il a neigé. Tout est couvert de neige. Lorsqu'elle descend du train, elle met le pied sur le quai, et le quai, évidemment, glissant, dangereux, et bien tout est là. Tout est là dans ce suaire qui semble couvrir la ville et les histoires, et ce sol qui est un sol dangereux. Et donc, Dallas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avancer à petits pas pour ne pas tomber dans ce qui lui arrive. Et puis, si on pense à la neige comme à un suaire, elle va le soulever pour voir ce qu'il y a dessous. Donc ça va être toute l'histoire. Et cette image fondamentale, eh bien, c'est toujours ça qui me motive pour écrire. Dans Les vivants et les morts, qu'est-ce qu'était l'image fondamentale? Eh bien, c'était son mari, Rudy, qui maladroitement ouvrait un placard et cognait la tête de Dallas avec la porte. Eh bien, la petite cicatrice qu'elle avait au-dessus de l'arcade sourcilière était à la fois le signe de ses blessures réelles et de ses blessures secrètes. Mais c'était aussi le moment où on se tape sur le front et on dit « J'ai compris ». Et donc l'histoire allait être comment Dallas va partir de là, de ce personnage qui semble sans grande importance et qui va devenir au fond la plus déterminée, la plus courageuse, la plus endurante et la plus lucide. Bien, à partir d'une image fondamentale, la porte sur la tête et ici, la neige partout et le sol qui glisse. Voilà où nous en sommes, parce que c'est effectivement aussi, je dirais, une sorte de vision plus ou moins métaphorique de la société dans laquelle nous sommes. À la fois, c'est très dangereux, c'est très glissant, et on n'y voit rien. Et le grand choc de Dallas, parce que ça va être la deuxième image qui est un grand choc pour elle, quand elle retourne sur les lieux où était son usine 20 ans plus tôt, où était la cause, non seulement elle ne reconnaît rien, mais il n'y a plus rien de semblable. La cause a été entièrement rasée, le sol vitrifié, et à la place, qu'est-ce qu'il y a? Un énorme parallélépipède, sans ouverture vers l'extérieur, entouré de grillages et gardienné par des vigiles. Voilà la société aussi dans laquelle nous sommes. Il y a à la fois cette vision totalement blanche et glaçante de la gare, et l'autre vision totalement noire et aussi glaçante de l'usine. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. J'écris comme ça, je fonctionne comme ça, d'image en image.
Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, et qui en plus est malheureusement très réel, c'est que elle retrouve cette ville qu'elle ne voulait pas retrouver, mais cette ville, c'est devenu une ville fantôme. Et en plus, c'est une image qu'on peut retrouver, malheureusement, dans beaucoup de petites villes. Ce n'est pas une énorme ville, liée souvent à des problèmes de chômage ou d'autres, d'ailleurs, d'isolement. Bon, après, quand elle va voir un petit peu plus concret, on s'aperçoit qu'il y a presque tous les commerces sont fermés, etc. Donc, enfin, c'est ça, c'est une image importante aussi aujourd'hui.
J'ai un souvenir douloureux à ce propos-là. Lorsque j'ai écrit l'attraction universelle qui commençait dans le Nord, j'étais allé, je ne sais plus pourquoi, mais enfin j'étais allé à Denain. Et j'ai toujours le souvenir d'une rue entière qui était à vendre. Et qui était à vendre pour le prix d'un studio parisien. Mais la rue entière, il n'y avait plus rien, plus personne. Donc on voit bien comment ça aussi c'est une disparition, la disparition des villes, la disparition des commerces de proximité, et puis tout simplement la disparition des habitants, parce que ne pouvant plus ni se loger ni habiter là, ils sont obligés d'aller ailleurs. Donc il y a ça. Et donc Dallas va finalement avancer dans cette histoire, là aussi cernée par des fantômes. Tout simplement, qui sont les fantômes? C'était ceux qui, 20 ans plus tôt, ont mené la grève, travaillé avec elle, étaient des amis, des compagnons, des amours, etc. Mais ils ne sont plus là. Mais ils sont là en même temps, parce qu'elle se souvient. Et donc, si elle se souvient, elle les fait vivre. Une seule est absente, sa fille.
Mais ça, ce que tu décris dans le livre, sur la réalité de cette ville, bon, on en parlera peut-être un peu, quelques exemples, parce qu'il y a quand même des choses qui survivent et qui vivent. On l'a encore vu ce week-end, on était à Lens, je te connais très bien. Tu cites Annonay, parce qu'il y a une autre usine en partie à Annonay. Dans Annonay, on y va assez souvent, parce qu'on a des copains là-bas. Enfin, on retrouve pas partout des trucs fermés, etc. Ça, c'est... Et c'est quand même important à situer, parce que on pourrait dire, ces gens-là, finalement, ils se mettent à voter Rassemblement National, etc. Mais, alors, c'est pas du tout pour excuser votre Rassemblement National, mais c'est dans un contexte comme ça, avec disparition de beaucoup de gens actifs qui sont plus là, d'ailleurs. Les gens sont, certains se sentent complètement abandonnés, donc peuvent aller se jeter dans les bras.
Surtout, ce qui est totalement dramatique, et là, l'État est responsable, c'est la disparition des services publics. Je veux dire, ce qui était le programme de Nicolas Sarkozy, qui au moins avait eu l'honnêteté de l'énoncer tel que, et de le mettre en œuvre tel que, et qui a été sans cesse aggravé, d'abord par Hollande, qui a été sans doute le pire du pire, puis aujourd'hui par Macron. Donc on est dans ça. À partir du moment où tu es dans une petite ville ou une ville moyenne, où il n'y a plus de recettes des impôts, où il n'y a plus de poste, où il n'y a plus un médecin à moins de 60 km, où il n'y a plus, où il n'y a plus, où il n'y a plus, soudain, le refuge, parce que ça paraît un refuge, c'est le refermement sur soi, le nationalisme, l'idée qu'on s'en sortira toujours mieux seul qu'avec les autres, etc. C'est ça qui fait cette clientèle-là. Alors donc, c'est terrible, parce que ça va en même temps, cet enfermement, il va aussi avec la disparition de toute culture populaire, puisque le slogan a remplacé la pensée, puisque il n'y a plus rien qui permette aux uns et aux autres de se retrouver et d'échanger. Moi, je suis très frappé d'une chose. Pour la sortie du livre, je suis allé dans beaucoup de librairies faire des rencontres en librairie. Et dans bien des endroits, je me rends compte que la librairie est à ce moment l'endroit où tout le monde se rassemble. Alors, bien sûr, pendant une demi-heure, disons un quart d'heure, 20 minutes, on parle de mon livre. Et puis ensuite, eh bien, on parle tout simplement de ce dont les gens ont envie de parler et qu'ils ne peuvent plus faire ailleurs, puisqu'il n'y a plus de café, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Soudain, la librairie est le lieu où l'on s'assemble. Et ça, c'est très important, parce que les librairies indépendantes font aujourd'hui le travail que faisaient les ciné-clubs dans les années 70. Mais parce qu'il y a ce manque, parce qu'il y a ce manque de relations, et parce qu'il y a cette vision vision carcérale, quand je décris Property, je décris la vision carcérale qui est promue comme étant le paradis sur la terre, de l'individualisme triomphant, où on est chez soi, on travaille chez soi, on se fait livrer à manger chez soi, on se fait livrer des vêtements chez soi, on ne regarde que la télé, on ne lit pas, et on a l'impression que l'existence, c'est ce qui se dit sur l'écran. Donc voilà tout le danger. Et moi, je vois bien que ce danger-là, il est terrible, parce que c'est ça que nous devons briser aussi, c'est-à-dire de remettre justement en exergue la culture populaire. Et quand je dis la culture populaire, je ne pense pas simplement à la culture livresque. Je dis simplement, la chanson, c'en est une, les rencontres, c'en est d'autres, etc. Et puis surtout, avoir une considération pour l'intelligence ouvrière qui n'est pas inférieure à l'intelligence universitaire. Mais tout ça est très puissamment combattu par ce qu'on appelle les néolibéraux, qui évidemment... ont comme fantasme, eux, d'un peuple finalement entièrement soumis et aux ordres, c'est ça. Et donc il faut rompre avec ça. Et pourquoi j'ai dit qu'on n'était pas assez révoltés? Parce que je pense qu'on ne l'est pas assez. Que nous ne le serons jamais assez. Et Dallas est un personnage fondamentalement révolté, alors qu'elle vit une chose dramatique avec la disparition de sa fille. Elle continue quand même à se battre pour les autres et essayer d'améliorer la condition de celle qui lui ressemble. Donc je crois qu'il faut aller de ce côté-là. Et que de ce point de vue-là, le roman a une place absolument indispensable. Pourquoi ? Le roman, c'est à mes yeux le seul endroit aujourd'hui où l'on puisse parler réellement de liberté d'expression. Je ne vais pas vous faire un dessin, les médias dominants sont tous, que ce soit télévision, radio, presse écrite, dans la suggestion de groupes industriels ou financiers. Donc, l'information, entre guillemets, si elle n'est pas stricto sensu censurée, elle est en tout cas à ce point contrôlée qu'il n'y a qu'un seul et même discours. De ce côté-là, il n'y a aucune place. Du côté du cinéma ou de la télévision, on peut toujours opposer, et on le fait, le problème de l'argent. Ça coûte trop cher, on ne peut pas faire ça, ça n'intéresse personne, etc., etc. Qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste le roman. Parce que le roman, et là, on rejoint la grande tradition française du 19e, avec justement Alexandre Dumas, avec Eugène Sue, avec Victor Hugo, c'est-à-dire une capacité à embrasser, et peut-être à embraser, mais à embrasser en tout cas le réel, et de le porter comme au fond une sorte de torrent qui nous permet de parler de l'histoire, des histoires, du savoir, du pouvoir, du devoir, du mouroir et aussi de l'espoir. Donc, il y a cette chose-là dans le roman invente constamment une lectrice ou un lecteur intelligent, tout simplement parce que ces questions des montées de l'extrême droite, de ces questions du chômage, de la précarité, de la violence, etc., dans un roman, ça s'incarne. Et dans 20 ans plus tard, ça s'incarne. Et donc, on a en face de soi un autre qui n'est en fait que soi-même, avec qui s'engage la discussion et qui nous fait soudain comprendre, j'espère, avec plus de lucidité, plus de profondeur, le réel dans lequel nous sommes.
Nicolas, il nous reste encore un peu de temps. Est-ce que tu as une question par rapport au développement ?
Oui, j'avais une question. Est-ce que ce qui s'est passé en 20 ans, puisque forcément en écrivant, tu as forcément réfléchi à ce qui s'est passé en 20 ans, est-ce que ce n'est pas une perte accélérée ou une confiscation des imaginaires ? C'est-à-dire ce qu'on pouvait imaginer comme un autre monde ou une autre façon de fonctionner ou comment on va faire pour s'opposer, est-ce qu'aujourd'hui ces capacités qui existent toujours de fait, mais elles sont tellement confisquées ou en tout cas effacées à imaginer autre chose, à imaginer que le travail ça peut être différent. Est-ce que c'est pas ça qui a le plus évolué?
Oui, enfin, évoluer, c'est pas le bon terme. Oui, non, c'est
disparu.
Pas... Oui, ça a disparu réellement, mais il y a une chose qui permet de mesurer ça, c'est dans les domaines qui sont les miens, la télévision, le cinéma, un peu la littérature, on voit que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires ont des parcours absolument radicalement autre de ceux que nous avons pu avoir à ma génération. Et donc, il y a un problème sociologique profond. Pourquoi ? Parce que, et spécifiquement à la télévision, mais aussi au cinéma, très peu de culture cinématographique, très peu de culture télévisuelle, et quasiment pas de culture littéraire. Donc, c'est des gens qui, tous, finalement, viennent, et c'est pour ça qu'on les a mis là, du monde bourgeois, petit bourgeois, qui ont connu papa, maman, les études, et puis rejoindre quelque chose, entre guillemets, de culturel, etc. Mais qui n'ont aucune expérience du réel. Ils n'ont jamais réellement travaillé, sinon pour gagner un peu d'argent, pour s'offrir des vacances. Mais il n'y a pas de cette expérience-là. Or, j'ai l'impression que, en tout cas pour ma génération, nous étions tous, mais je pense aussi bien à Jean Hassfeld qu'à Sorge Chalandon, qu'à Dan Franck, etc. Nous avions tous eu une expérience du travail. Moi, j'ai été ouvrier imprimeur. Je veux dire, ça a été une chose, et puis j'ai fait des tas d'autres choses. Mais bon, j'ai eu une expérience du salariat, tout simplement. Et d'ailleurs, je me pense toujours comme un salarié. Donc je pense que c'est ça aussi, cette privation de l'imaginaire. D'autant plus que les partis politiques de gauche et les syndicats ont renoncé totalement à ce qui était avant la culture populaire. Je veux dire, de faire des choses pour... Enfin, quand j'étais enfant dans le 20e, je vous parle du Moyen-Âge, donc dans les années 60, il y avait en fait deux forces structurantes entre Belleville et Ménilmontant. Il y avait d'un côté les curés et de l'autre côté les cocos. Mais les deux investissaient énormément dans tout ce qui est l'éducation populaire. La lecture, le cinéma, le théâtre, les voyages, les conférences, etc. Il y avait une sorte de combat qui était quand même très dynamique. Enfin, moi, je me souviens que Guy Rétoré, qui est le fondateur du TEP, jouait au patronage Saint-Pierre de la rue de Ménilmontant la mort du roi Jean de Shakespeare. Guy Rétoré était un bouffeur de curés absolu, mais les curés étaient absolument ravis de l'accueillir là. C'était une sorte de prise de guerre. Mais ça servait à tout le monde, d'une certaine manière. Or, tout ça a disparu. Tout ça a disparu, puisque le slogan, les petits écrans ou les gros écrans, les choses comme ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus cette curiosité. Et puis, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la grande peur contemporaine, c'est finalement la peur du chômage, de l'exclusion, de la précarité, etc. Et un sociologue avait remarqué une chose que je trouve formidable, que la courbe du chômage est devenue exponentielle exactement en même temps que la construction des ronds-points devenait exponentielle en France. Mmh. Et dans les ronds-points, l'injonction fondamentale, c'est « vous n'avez pas la priorité » et ensuite on tourne en rond. Ben, la ville, la terre nous dit quelque chose à ce moment-là, eh bien c'est ça. Or, cette peur de la précarité, du chômage, de l'exclusion, eh bien ça fait que tout le monde est poussé, incité à aller voir le même film, à aller voir une exposition, à lire le même livre, ou en tout cas à l'acheter, etc. Parce que, non pas parce que ça serait un film qui serait plus intéressant qu'un autre, une exposition plus surprenante, ou un livre formidable à lire. Non, ça donne le sentiment d'être toujours dans le cercle, d'être à l'intérieur. Eh bien, justement, le roman permet de briser ce cercle et permet de s'arracher à cette peur de l'isolement, parce que d'un seul coup, l'invention devient dangereuse et devient excitante et devient passionnante à vivre.
Bon, je pense qu'on va faire une pause musicale. J'ai juste une petite remarque, Monique, si tu me laisses 30 secondes, sur les ronds-points, si tu veux. Bon, j'ai une petite nuance, parce que je les ai vus revivre au moment des Gilets jaunes, et on avait même appelé notre studio, que c'était un rond-point, parce qu'on a fait au moins, je sais pas, 6 ou 7 émissions avec plein de gens autour. Là, les ronds-points ont revécu. Malheureusement, moi j'aurais bien aimé que ça revive encore bien plus longtemps que ça l'a été, mais bon,
là aussi un point. Les ronds-points sont devenus un lieu de rénovation de l'imaginaire.
Exactement, ouais. Mais ça c'est, voilà, très bien, il faut savoir, c'est comme... de toute façon, la langue réinvente aussi des choses constamment. Et bon, de ce côté-là, personne ne sera aussi imaginatif que justement les pires d'entre nous qui ont inventé, par exemple, le plan social pour à la place de plan de licenciement. C'est une trouvaille absolument extraordinaire, extraordinaire.
Monique.
Monsieur Boulot, on te voit plus dans la région depuis un bail. T'es parti ou t'as disparu, à Kiev, à Pékin ou Shanghai. Nous on t'avait toujours connu, t'étais de toutes nos batailles. T'habitais juste au bout de la rue, t'as tout laissé pour ce travail. T'as pris avec toi tes affaires, tes tours, tes fraiseuses, tes camions. Maintenant l'usine c'est un cimetière et les 3-8 on tourne en rond. Si tu voyais comme c'est rouillé, la boutique où on s'est connu, bureau squatté, mur tagué et les cheminées qui ne fument plus. Monsieur Boulot, pour qui tu bosses depuis que tu nous as oubliés? Je sais pas si t'avais des gosses, mais les nôtres ils peuvent plus te saquer. Pôle Sud, Pôle Nord ou Pôle Emploi, on a beau y croire tous les jours, on te cherche partout mais on ne trouve pas. Et on commence à être à court après tout ce qu'on a fait pour toi. T'as même pas laissé un petit mot, t'as préféré partir comme ça. Ici on dit comme un salaud, j'espère qu'on te reverra un jour, que tu repasseras par chez nous. Et même si c'est plus trop de l'amour, on t'en voudra pas pour un sou. Monsieur Boulot, tu fais la course aux bénéfices et aux rendements. Et même si t'en as plein les bourses de tes dollars, de tes placements, tu te souviens plus comme c'était beau. Reviens faire un tour par ici, on rallumera les hauts fourneaux, l'accordéon sur nos samedis. Monsieur Boulot, qu'est-ce que tu deviens? La vie sans toi, c'est plus pareil. Depuis qu'on te voit plus dans le coin, on dort plus sur nos deux oreilles. Pour la communion du dernier, on aurait aimé que tu sois là. On doit même plutôt t'avouer que ce sera pas facile sans toi. On t'aimait bien dans le quartier, on comptait tous un peu sur toi. Pour la bagnole, pour le loyer, pour boucler la fin des 12 mois. Mais quand on te voit à la télé, prendre la pause et faire le beau, on se dit que le fric t'a bien changé. Pourtant tu manques, pourtant tu manques, Monsieur Boulot.
Monsieur Boulot, c'était Eric Frasiak dans Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc dans Trou Noir, aujourd'hui avec Serge et Monique, nous recevons Gérard Mordilla pour son roman paru le 2 janvier 2025, Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, chez Kalman Levy.
Voilà, bah, je propose que tu nous, bon, enfin que tu expliques aux lecteurs et tu donnes envie de lire le livre. Enfin, je pense que des auditeurs l'ont déjà lu, certains d'entre eux. En tout cas, quelque chose, puisque tu en as de cette société de service en général et particulièrement pour partie. Hein. Donc, il se trouve que Dallas, puisqu'elle va être amenée à rester là, bon. un certain temps en tout cas, elle se décide à travailler, à essayer de travailler à la property. Donc, j'aimerais bien que tu décrives un petit peu. On le voit, je crois, il y a 3-4 chapitres où on commence à faire des tests, etc. Tu décrives un petit peu à travers son expérience à elle. D'ailleurs, je me demande si tu t'es renseigné quand même sur ce genre de choses ou...
Non. Alors, deux choses. Qu'est-ce qui peut donner envie de lire le livre ? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'écris de gros livres et je suis convaincu que si ça ne se vend pas ou si ça ne se lit pas, ça peut toujours servir à monter des barricades. Donc voilà un bon argument. Ensuite, pourquoi le lire ? Parce qu'on parlait des choses qui ont disparu. Lorsque Dallas travaillait à la Cosse, elle était une ouvrière spécialisée dans la fibre plastique, etc. Elle avait un métier, réellement. Là, quand elle va travailler chez Property, elle est simplement une exécutante. Elle n'a aucune initiative possible, c'est-à-dire que les ordres lui sont donnés par un bracelet écran où elle lui indique où elle doit aller chercher un produit, le donner à celui qui l'emballe, qui lui-même le passe à celui qui le scotche, qui le transmet à celui qui l'envoie. Donc, elle est entièrement, je pourrais dire, elle est transformée en espèce de robot humain, hein, et elle n'a aucune place. Ensuite, le travail est un travail extrêmement physique, puisque celle qui va lui faire passer les tests avant de rentrer dira, mais vous savez, c'est à la fois une finale d'un 100 mètres olympique et un marathon en même temps tous les jours. Et bien, c'est à peu près ça. Alors d'où ça vient ? Ça vient de deux choses. J'ai lu un livre très très bien sur le fonctionnement d'Amazon et comment c'était quelqu'un qui a resté là-bas 2 ans, qui a très bien décrit justement les processus. Et puis il y a un autre livre qui était paru chez Demopolis, qui était vachement bien, sur l'usine Toyota, le management de l'usine Toyota, qui d'ailleurs était la matrice de Amazon. Donc j'ai fait un croisement des deux. Et j'ai inventé quelque chose d'autre en faisant quelque chose qui soit encore plus un contrôle des personnes et encore plus finalement leur réduction à simplement le geste qu'ils pouvaient accomplir. Ils n'ont plus rien à penser, ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont pas le droit de parler d'ailleurs. Il n'y a pas de syndicat, il faut qu'ils exécutent ce qu'on leur ordonne, comme on dit dans l'armée, sans murmure, hein. C'est ça. Et le travail, qui est un travail aussi physiquement éprouvant, abrutissant d'une certaine manière, eh bien, Dallas est obligé de l'accomplir parce que, tout simplement, il faut qu'elle gagne sa vie et il faut qu'elle travaille. Et donc, elle a accepté ça. Et Lorquin, qui est donc le fils du Lorquin d'il y a 20 ans, d'ailleurs, lui a donné un coup de main pour l'aider à se faire embaucher. Parce que lui... Il vit au fond une sorte de contradiction. Il fait ce qu'il a à faire parce qu'il est payé pour ça et qu'il sait le faire, etc. Mais en même temps, lui aussi a une histoire. Et il n'est pas indifférent à ce qu'il voit et ce qu'il fait. Il essaye de maintenir une sorte d'équilibre entre les nécessités des objectifs qu'on lui fixe et puis la réalité des personnes qui sont obligées de faire ça. Donc voilà, c'est un personnage là aussi... porteur de contradictions, mais j'espère que tous les personnages de 20 ans plus tard portent en eux des contradictions. Il n'y a pas d'un côté des héros qui seraient sur le chemin triomphant de la gloire, et puis de l'autre d'infâmes salauds qui font ça. Non, ils ont tous, finalement, mais comme nous tous, une espèce d'hésitation qui est le tremblement même de la vie.
Et bon, il y a quand même autour de ces gens qui sont bons, que tu décris, effectivement, il y a aussi quand même des managers qui sont là pour stimuler. Il ne faut pas oublier quand même qu'il faut faire de plus en plus, quoi.
Oui, mais parce que surtout, c'est un système, ça vient alors, très directement de la grande peur de 68. Après 68, les patrons ont eu une peur immense. Et ils sont mis en place des choses qui sont avérées extrêmement efficaces. D'abord, ils ont brisé tous les grands rassemblements ouvriers. on a créé plusieurs entreprises où avant, il n'y en avait qu'une. Et ces entreprises, on les a mis, enfin, ces filiales, si je puis dire, on les a mis en concurrence les unes avec les autres. Et à l'intérieur, on a mis le personnel en concurrence avec lui-même. Donc ce système de concurrence, ce système de compétition, ben voilà, ça crée que chacun doit imposer la seule loi qui compte, qui est la loi individuelle. Et les managers chez Popperty, pareil, sont en compétition les uns avec les autres. Enfin, ils sont à la tête d'une équipe, ils doivent réussir les meilleurs résultats de ça. Et donc, pour réussir les meilleurs résultats, ils doivent pousser les ouvrières et les ouvriers à faire plus que les autres, à le faire plus vite et à le faire plus efficacement. Et c'est sa seule chose qui compte. Et voilà, donc c'est cette société-là que je veux décrire. Mais ça paraît comme ça un peu théorique ou vu de l'extérieur. Dans le roman, ça se vit de l'intérieur avec les femmes qui cavalent partout, qui se blessent les mains, qui, voilà, qui s'épuisent à faire ça. Avec ce système incroyable qu'il n'y a que deux pauses de 10 minutes chaque jour et la pause s'annonce musicalement. On envoie une comédie musicale, tout le monde s'arrête où il est et s'assoit où il est pour se reposer. Et quand c'est fini, le signal de départ, c'est l'hymne à la joie de Beethoven. Donc voilà, on est dans cette chose-là, on est dans ce monde-là. Et c'est vrai que c'est là aussi que je pense que le roman permet de dire là des choses que disent peut-être des essais, mais dont la lecture n'est pas aussi prenante, n'est pas aussi prégnante, j'ai presque envie de dire, parce que ce qu'on vit dans un roman, on le vit dans son corps. Et c'est ça qui est important pour moi.
Oui, il y a aussi, hein, je ne sais pas, tu as peut-être une question, Nicolas. On vit avec les personnages. Enfin, moi, ça, c'est des choses évidemment qui me tiennent à cœur, tout ce qui se passe sur les lieux de travail, mais on vit avec eux et leurs difficultés. C'est-à-dire, on ne peut pas uniquement dire il y a des bons et des méchants. C'est qu'ils ont, comme tu l'as décrit d'ailleurs, ils ont de telles difficultés autour d'eux, même ceux qui prennent bon, pas forcément le bon côté de la résistance. Mais ils sont dans une situation où, de toute façon, s'ils arrêtent le travail, ben, qu'est-ce qu'ils vont bloquer? Pas grand-chose par rapport à une usine de production comme la course, quand même. Oui, même si, sûr, au bout du compte, tu risques de perdre. Mais enfin, pendant un certain temps, il se passe des choses.
Moi, un modèle qui m'avait beaucoup frappé, quand en 76 j'ai tourné La Voix de son maître sur le discours patronal, nous avions filmé le patron de IBM France qui nous avait expliqué un modèle d'organisation pour la fabrication de je ne sais plus quel composant dans les ordinateurs. Il y avait deux usines en France, une dans la région parisienne et l'autre près de Montpellier. Les deux usines faisaient exactement la même chose. Et ces deux usines qui faisaient exactement la même chose étaient répliquées à l'identique en Espagne. Mais là aussi, l'une au nord, l'autre au sud. Ce qui fait que si venait un mouvement de grève, par exemple, réellement, qui s'arrêtait là, automatiquement l'autre pouvait fournir. Et s'il y avait un mouvement de grève en France où les deux réussissaient à s'unir, il y avait l'Espagne qui fournissait. Donc, il y avait une sorte de piège comme ça, de choses où on ne pouvait pas sortir. Et j'ai gardé ce modèle, au fond, implicitement dans ça. Mais moi, ce qui m'importe, c'est ce que tu dis, c'est qu'on vit avec les personnages, parce que c'est aussi une histoire d'amour tragique, parce que la disparition d'Ève fait que le couple de Rudy et Dallas, qui est le couple emblématique, évidemment, traverse des difficultés énormes. C'est comme si la disparition faisait entre deux chauffer à blanc une plaque d'acier qui les empêche de se retrouver. Et donc, au bout d'un moment, la situation va être à ce point insupportable qu'ils vont se séparer. Alors, est-ce qu'ils se retrouveront?
C'est peut-être le bon choix, en fait, dans la période.
Peut-être.
Enfin, c'est pas moi à le dire à leur place. Ouais. J'ai ressenti comme ça.
Est-ce qu'ils vont se retrouver?
Ah, ça, on ne sait pas.
On sait pas.
Est-ce
qu'ils vont retrouver? Eh ben voilà, il faut lire le livre pour le savoir. Mais je veux dire, le côté passionnel de cette histoire est important, parce que ce qui se joue dans ce qu'on discute de façon, j'ai envie de dire, macroéconomique, la situation des entreprises, de l'emploi, etc. Non, dans un roman, ça se joue dans l'intimité du couple. Et c'est ça qui est formidable. Enfin, ce qui est formidable à écrire, je ne dis pas, je ne me fais pas un auto-compliment, mais je veux dire, c'est de se dire c'est dans l'intimité que l'on comprend mieux que partout ailleurs exactement ce qui est en train de se passer dans la société. Mmh. Et c'est vrai que Rudy et Dallas, de ce côté-là, sont emblématiques. Mmh. Parce que bah, Rudy, lui, après cette séparation, va aller de mal en pis, si je puis dire, parce qu'il était chauffeur routier et son patron va lui proposer de devenir auto-entrepreneur, ce qu'il va refuser parce qu'il sait bien que c'est une grande escroquerie. Et ensuite, bah, il va d'une certaine manière là aussi être déqualifié. Il va être serveur dans un restaurant, il va finir à la plonge, etc. Mais ça aussi, ça fait partie de ces disparitions sur 20 ans. C'est-à-dire que lorsque Rudy travaillait à la cause, il travaillait à la maintenance, il était un mécanicien, il était ajusteur outilleur, etc., etc. Là, il n'est plus ça. Il est simplement dans une situation de survie. Comme Dallas, quand elle était à la cause, elle avait une qualification. Quand ils sont venus vivre dans la région parisienne, bah, elle n'avait plus de qualification en rien, et elle a gardé des enfants et elle a fait des ménages. Je veux dire, on est dans ça. Mais en même temps, il ne renonce pas, ni Rudy, ni Dallas. Et il y a une chose que, à un moment, dans un dialogue, Dallas discute avec une jeune infirmière qui s'appelle Muriel. Et Muriel lui dit, mais quand même, vous n'êtes pas découragé. Et Dallas lui répond, je ne suis pas assez riche pour être découragé. Ce qui est une chose magnifique que j'ai entendu dire à une syndicaliste dans un entretien. Je trouve ça magnifique. Et jusqu'au bout, eh bien, va y avoir cette idée de ne pas se laisser faire, de ne pas accepter le sort qui vous est promis. Et alors, ce qui va tout changer aussi, c'est que, et c'est là que je trouve que plus que jamais, le roman touche au réel. 20 ans plus tôt, les combats étaient menés par les syndicats et essentiellement par des hommes. 20 ans plus tard, ce sont les femmes qui vont mener les combats. Or, je suis convaincu qu'aujourd'hui, toutes les luttes féministes sont en réalité l'avant-garde des combats politiques que nous devons mener. Parce que ça pose la question essentielle. Si on réfléchit à la situation des femmes dans le monde, on voit bien que les femmes sont évidemment les personnes les plus opprimées. De tous les opprimés. Alors, ça paraît, en France, ça n'est pas, ça saute pas aux yeux immédiatement, mais c'est une réalité. Et si on regarde un peu ailleurs, alors là, c'est très facile de comprendre ça. Or, c'est pour ça que je pense que ces combats-là, que le combat des femmes en tant que femmes, devient l'avant-garde de tous les combats que nous devons mener. Et dans 20 ans plus tard, eh bien, c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire, aussi bien les glottes rebelles que les employés de Property vont s'y mettre ensemble en tant que femmes, dépassant les syndicats, dépassant les partis politiques, pour remettre en cause la société telle qu'elle est établie aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est la chose qui, moi, m'importait et qui m'importe de porter le plus haut possible.
Oui, Nicolas.
Est-ce qu'il y aurait une mélancolie masculine du fait de voir tous ces domaines réservés, avec des guillemets évidemment, investis par les femmes et à tout à fait à juste titre, et de plus savoir comment se positionner?
Non, c'est pas. Moi, je sais tout à fait comment me positionner. J'ai pas de mélancolie par ça, mais j'ai rencontré il y a très longtemps les femmes des mineurs anglais qui avaient mené cette si grande grève contre Margaret Thatcher. Celles que j'ai rencontrées vendaient des brochures et des gâteaux pour soutenir les grèves, enfin, non, les chômeurs, parce que la grève était perdue, les syndicats laminaient, le chômage absolument massif. Et ces femmes, qui étaient les femmes des mineurs, leurs sœurs, leurs mères, leurs petites amies, leurs voisines, continuaient le combat. Moi, j'étais très, très admiratif de ça. Et dans mes romans, s'il n'y a pas de femmes de mineurs anglais, on ne voit pas ce qu'elles y feraient. Il y a en tout cas leurs fantômes, il y a en tout cas leur esprit. Et je pense que c'est ça. Et moi, je n'ai pas de nostalgie de ça. Je pense qu'il faut, au contraire, c'est supporter ça.
Ouais. C'était pas. Est-ce que toi, tu as la mécanique?
Non, il n'y a pas. Je crois pas qu'il puisse y avoir de mélancolie. C'était pas. Enfin, jamais on ne peut penser que c'était mieux avant. C'était différent, mais c'était pas mieux. Bon, mais c'était pas ça. Moi, la chose auquel je pense très souvent, c'est que, justement, dans Mélancolie ouvrière, le film que j'ai fait sur Lucie Beau, une des premières syndicalistes françaises, pourquoi se battait Lucie? Elle s'est battue toute sa vie pour la journée de 8 heures, qu'elle ne verra jamais de son vivant. Ça viendra en 1913, elle meurt en 1906 ou je ne sais plus quoi. Elle s'est battue pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Nous sommes en 2025, cette égalité salariale n'existe toujours pas. Donc, il est temps de rejoindre, d'appuyer ce combat, parce que c'est un combat qui définit la société dans laquelle nous sommes. Ça, pas autre chose. C'est évidemment, c'est pour ça. Alors, que les hommes, ça ne veut pas dire que les hommes en sont exclus, mais ça veut dire que les hommes doivent accepter de parler d'égal à égal avec les femmes qui leur font face. Or, ce n'est toujours pas le cas.
Une musique.
Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. Il est connu dans toute l'entreprise, montré du doigt, désigné du menton. Sur son passage, on chuchote, on méprise, mais il est le chouchou du grand patron. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer, éliminer. La poursuivante ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. A-t-on jamais prêté de l'importance autrement que pour s'en débarrasser? Au grain de sable brisant la cadence, empêchant la machine d'avancer. De même au nom du fric, a-t-on jamais hésité une fois à dégraisser l'effectif pourtant insuffisant? Mais Monsieur Gilou n'est pas là pour bosser. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence de l'extrait pur de ressources humaines. Sans moi, dit-il, tout deviendrait bancal, l'édifice risquerait de chuter. À l'ordre branlant, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer,
éliminer.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par licencier le patron. Gens de labeur, salariés, tâcherons, à qui l'on a martelé le principe, qui dit, pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les tripes. Rompons avec ces tristes habitudes, Monsieur Gilou nous montre le chemin. Noyons l'exemple par la multitude, et tous unis ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons nous promener au fond des bois pendant notre excursion. Arrangeons-nous pour perdre le patron.
Ça a du bon, la tradition.
J'entends déjà crier à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la geôle, même pire, on me promet de me laisser KO. Qu'importe, d'autres viendront après moi. Aussi, je vous invite en attendant, ensemble reprenons à pleine voix. Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien,
vraiment rien.
Nota bene, il faut l'éliminer. Et quand le patron se sera fait l'affaire, on ira s'occuper des actionnaires. Monsieur Gilou est chef du personnel, ou d'autres choses on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel, paraître utile, lui qui ne sert à rien. À rien, à rien, à rien.
Monsieur Gilou, c'était les chanteurs livreurs. Vous écoutez Trou Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc aujourd'hui, avec Serge Monique, nous sommes en compagnie de Gérard Mordillat pour Les vivants et les morts, 20 ans plus tard, paru en janvier 2025 aux éditions Kalman-Lévy.
Oui, j'ai presque envie de continuer un petit peu ce que tu avais abordé et qui me paraît effectivement important aujourd'hui, quoi. C'est le rôle des femmes. Et bon, alors, on pourra parler un petit peu ce qu'elles font dans le cadre de cette ville pour qu'elles survivent un peu, qu'elles résistent. Hein. Mais au-delà de ça, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Alors, je ne sais pas si tu analyses la même chose, mais bon, j'en fais pas une généralité, mais j'ai constaté quand même que quand il y avait un conflit important, mais qui, non seulement évidemment qui pouvait changer la condition salariale de travail pour des gens qui sont dans ce conflit, mais que ce conflit pouvait peut-être aller plus loin, c'est-à-dire au niveau peut-être que au-delà de ça, on va revivre mieux, puisque les vivants, il y a le terme les vivants. Et j'ai constaté que dans ces cas-là, les femmes étaient extrêmement présentes. Alors bon, si je prends des exemples plus larges, l'Iran, c'est évident. Il n'y a pas qu'en France, quoi.
Bien sûr.
C'est ça. J'ai l'impression, si tu veux, que. Alors je ne fais pas une généralité absolue, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mais comme les femmes sont dans une situation où. La plupart du temps, elles sont réprimées, pas forcément uniquement au travail, mais aussi ailleurs. S'il y a un conflit qui prend une certaine ampleur, j'ai l'impression qu'elles ont plus l'envie quoi, que le conflit marche, y compris que ça change leur vie. Alors, je ne schématise pas non plus. Hein. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Hein.
Non, mais bien sûr, non, mais je crois qu'il y a, spécialement dans les conflits où les femmes sont au premier rang, un désir de liberté qui est très au-delà de revendications salariales ou de conditions de travail. Il y a quelque chose d'autre. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ça pousse à une transformation profonde de la société et que la société qui est construite en héritage de tous les textes dits sacrés qui mettent en exergue la place des hommes, etc. Je pense que nous pouvons penser le monde autrement. Et qui peut penser le monde autrement aujourd'hui? Qui peut mieux le penser autrement? Je pense que ce sont les femmes. Et moi, je suis spécialement sensible à ça parce que si je réfléchis à mes amitiés littéraires, je me rends compte que la majorité de ces amitiés sont des amitiés féminines. J'étais très lié avec Geneviève Serrault, qui était la secrétaire de rédaction des Lettres Nouvelles, la revue de Maurice Nadeau. Geneviève, qui, d'une certaine manière, m'a réellement appris à écrire. J'ai publié dans Libération, quand j'étais responsable des livres, l'été 80, avec Marguerite Duras. Là. J'ai fait un film sur Béatrice Beck, qui est un auteur absolument extraordinaire, qu'heureusement on est en train entièrement de rééditer. Voilà, donc aujourd'hui, j'entretiens une correspondance et des liens très amicaux, aussi bien avec Annie Ernaux qu'avec Michel Perrault. Donc voilà, où je pense aussi à Sarraute, qui m'avait au fond raconté une histoire magnifique, qui m'a fait une scène dans en compagnie d'Antonin Artaud. Bref, j'ai une sorte de sensibilité particulière à ces auteurs et qui fait que sans doute je ressens dans ce qu'elles écrivent une perception du monde qui me paraît plus aiguë et plus prometteuse que celle que je trouve chez les hommes, même si j'ai beaucoup d'amis chez les hommes. J'ai cité d'Anne Frank, j'aurais pu citer John Berger et d'autres, mais voilà, je crois qu'il y a ça, et c'est vrai, c'est dans cette perspective là moi dans mes livres, c'est certain, il n'y a pas de héros au sens masculin du terme, il n'y en a pas, mais il y a toujours des héroïnes. Alors, c'est pas des héroïnes dans le genre des belles histoires de l'oncle Paul, la femme triomphante qui fait ça. Non, ce sont des femmes qui sont capables de se confronter au réel, aussi violent, aussi douloureux soit-elle. Et Dallas, elle affronte un réel qui est particulièrement douloureux et violent, puisqu'elle est obligée de revenir dans un lieu où elle ne voulait pas revenir. Ses parents sont décédés et elle est en conflit implicite avec ses frères. Il y a cette séparation avec Rudy, il y a l'absence d'Ève, etc. Elle est dans une chose où, au fond, elle est dans une solitude extrêmement aiguë. Or, malgré ça, elle ne renonce pas à s'investir tout entière dans ce que seront les combats des autres ouvrières de Property, etc. Elle combat encore ça. Bah pour moi, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire, parce que ce qu'espère Dallas, c'est pas de sauver son emploi, d'avoir l'augmentation, d'avoir des RTT. Pas du tout. C'est d'être dans un monde qui soit vivable. Or, le monde qui est implicitement décrit par l'organisation du travail chez Property est un monde invivable, un monde carcéral, où tout est surveillé, où rien n'est autorisé, où le moindre geste est chronométré. Quand elles vont aux toilettes, c'est chronométré. Donc, on voit ça, c'est-à-dire que ça réduit l'individu à rien. Or, les femmes qui, déjà dans leur situation extérieure, ne sont pas considérées comme elles devraient l'être, sont là encore, je dirais, plus asservies. Parce que c'est toute l'histoire de Dallas. Au départ, Dallas dans Les Vivants et les Morts, comme elle est jolie, tout le monde pense qu'elle est stupide. On pense qu'elle a une tête d'oiseau, qu'elle ne comprend rien à rien, etc. Qu'elle est simplement là pour faire jolie. Mais c'est pas ça du tout. Et donc c'est cette histoire de cette prise de conscience aussi que je trouve très importante de mettre en exergue, de faire sentir, de faire vivre. Parce que Dallas, c'est aussi une femme amoureuse avec un corps, avec des désirs, avec des élans, avec des secrets, etc. Mais c'est ça aussi la vie. C'est pas simplement la lutte sociale ou syndicale, c'est vivre tout simplement. Et je crois qu'elle exprime peut-être plus que toutes les autres ce désir de vivre et ce désir de liberté qui est indispensable finalement, qui est la vie elle-même, quoi. Il n'y a pas de hiatus entre les deux.
Nicolas, tu...
Ouais, il me semble aussi que dans la grève en général, c'est aussi un moment où on peut dire, où on dit non. Enfin, je veux dire, en revendiquant des choses, mais c'est au-delà des revendications et de ce qu'on obtient éventuellement, parce que bien souvent, à la fin, même si on gagne, c'est souvent pas grand-chose, mais en fait, on peut dire non. Et on peut se poser autrement par rapport aux demandes et à la manière dont on est traité, quoi.
Non seulement on peut dire non, mais on peut dire oui aussi. On peut dire oui aussi parce que dans les grands conflits, l'intensité de la lutte pousse aussi aux amours les plus intenses. Et soudain, toutes les barrières qui jusqu'à là pouvaient être entre les êtres disparaissent. J'en ai pas une expérience extraordinaire, mais j'en ai quand même une expérience. Et je me suis rendu compte de ça. Comment, dans un conflit social, où tout le monde est dans la lutte, où tout le monde est ça, où il y a une tension absolument extraordinaire chaque jour, chaque heure, éventuellement chaque nuit, eh bien, les sentiments sont et les désirs sont exacerbés. Et donc là, on dit oui, et c'est vrai que dans Les Vivants et les Morts, un moment, Rudy et Dallas font l'amour avec le sentiment que c'est pour eux un acte absolu de résistance. Ça, on ne peut pas leur prendre. Leur jouissance, on ne peut pas leur prendre. Leur amour, on ne peut pas leur prendre. On peut tout leur prendre, sauf ça. Et bien sûr, dans cette histoire, c'est Dallas qui est à l'initiative.
Oui, ça me fait penser, bon, on avait parlé hors antenne avant de démarrer l'émission, mais je pense que ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que tu dis. Bon, je fais un résumé extrêmement bref, mais c'est vraiment une illustration, quelque chose que j'ai vécu au moment de l'IP, c'est-à-dire les années 73-74. J'avais appris quand même, on en parlait un petit peu, mais beaucoup moins, puisque l'IP, à juste titre, était quelque chose de très fort, y compris tous les soutiens qu'il y a eu. Donc, du côté des Deux-Sèvres, il y avait une petite usine, devait être à peu près 200, à peu près, ben, ça recoupe un peu les chiffres qu'on a dans ton livre. Et en fait, ça a démarré parce que, bon, à l'époque, il y avait quand même un syndicat, c'était une déléguée syndicale qui voulait virer parce qu'elle faisait bien son boulot. Et donc, particulièrement les femmes qui étaient ouvrières dans cette usine, avaient un peu plus de la moitié du personnel, n'a pas accepté ça. Et bon, à l'époque, comme il y avait l'IP, elles ont eu l'idée de reprendre l'activité, etc.
Mais dis ce qu'elles faisaient, tu ne nous l'as pas dit.
Pardon ?
Tu nous as pas dit ce qu'elle faisait comme...
Alors, elle faisait des chemisiers.
Ah ben voilà.
Et ce qu'on recoupe, bon, pas tout à fait, mais c'est pas la même activité, mais chacune, il y en a une qui faisait les manches, ou qui faisait, etc. Et donc, elles ont décidé de résister, ça a duré pas mal de temps. Hein. Et ce qui est assez fort, et c'est pour ça que ça m'y fait, j'en reparle après t'en avoir parlé au début, c'est que ça a eu des conséquences énormes. C'était des jeunes femmes, hein. La plupart étaient des jeunes femmes, à part bon, celles qui étaient des syndicales et un peu plus âgées. Mais ça, ça a posé plein de problèmes en ville. Alors il y a des jeunes femmes qui ont quitté leurs parents, il y en a qui sont allées vivre avec le copain qui voulait vivre. Enfin, il y a eu toute une effervescence dans la ville, enfin, c'est ce que tu décris. Ça s'est prolongé, en plus c'est un conflit qui a duré longtemps. Et en plus, bon, par ailleurs, à l'exemple de l'IP, elle refaisait des chemisiers avec tout un circuit de vente, et sachant qu'elle redécouvrait le travail, finalement, elle aimait bien faire un chemisier, mais là, elle faisait tout un chemisier, enfin, etc. Bon, je ne veux pas développer plus, mais je pense que ce que tu disais, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Là, il y a à la fois, il se trouvait, comme c'était les femmes qui avaient les boulots les moins qualifiés, c'est surtout elles qui ont bougé, je crois qu'il y a un mec qui faisait les pantalons, je me souviens bien qu'il était avec elle. Non, bah, j'avais été sur place, du coup j'étais resté 15 jours, mais ça m'avait vraiment intéressé, quoi. Mais c'est vrai qu'un conflit comme ça, qui est fort, ça diffuse dans l'individu, ça diffuse dans le collectif, ça diffuse dans la ville, c'est une petite ville en plus qu'il y avait, et ça pose tous les problèmes de la vie, en fait. Hein. C'est ça continue.
Je me souviens d'un débat à la fac à Jussieu, après les grandes grèves étudiantes, où le prof, qui était un prof de sociologie d'ailleurs, avait fait remarquer que les élèves qui avaient les meilleurs résultats étaient ceux qui avaient été le plus engagés dans la lutte. Et donc, ça ne m'étonnait pas d'une certaine manière, parce que c'est une façon, bien sûr, d'affûter les consciences. Et, c'est pour ça qu'on n'est pas assez révolté. Mmh. Il faut sans arrêt qu'on ait tout le temps et des spectateurs et des lecteurs distraits.
Oui.
Je vais revenir sur une chose.
Oui.
On a écouté une chanson, Monsieur Gilou, chef du personnel. Très, très bien. Et moi, je crois que c'est très important de suivre la piste des mots. Parce que... Pardon, je suis encore... Bon, ça va. Quand j'ai tourné La Voix de son maître, voilà, quand j'ai tourné La Voix de son maître, en 76, avec une quinzaine des chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises françaises, dans toutes les entreprises, il y avait un chef du personnel. Quand le film est sorti en 78, dans toutes les entreprises, il y avait un directeur des ressources humaines. On était passé du personnel à la ressource. Quelques temps plus tard, l'ensemble des personnels des entreprises était considéré comme variable d'ajustement, c'est-à-dire une notion abstraite, purement comptable. Et maintenant, ce qui est mis en avant par les organisations patronales, c'est le capital humain. Donc, le talent de chacun, son savoir, ses études, etc. Mais si on réfléchit aux mots, on est parti du personnel et on est arrivé au capital. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas être un lecteur distrait, à la fois sur le plan romanesque, mais tout simplement dans la vie, en regardant bien ce qui se dit, comment ça se dit et comment ça s'appelle.
Puis sous l'appellation de capital, ça veut bien dire que ça appartient à l'entreprise, quand même.
Ah bah oui, bien entendu.
Oui, toujours un peu, pour illustrer, si tu veux, le rôle des femmes, bon, dans le cas du livre, par exemple, quelque chose d'important, au-delà des luttes bon, qui va être amenée à jouer, bon, enfin, je crois qu'il faut lisier le livre pour voir exactement ce contexte, mais enfin, là, on peut quand même parler qu'elles essaient quand même qu'en ville, un des lieux importants... Qui est ce café qui vise à disparaître. Peut-être que tu parles un peu de ça, parce que c'est quand même un lieu important, c'est un lieu de sociabilité.
Parce que le roman, bien sûr, et c'est aussi un roman d'aventure. Il se passe des tas de choses. Et donc, parmi les choses qui se passent, y a le saloon, d'une certaine manière. Et le saloon, c'est l'espérance, dont le nom est ô combien symbolique. Parce que c'est un des rares lieux où l'on peut se retrouver. Là aussi, justement, c'est un des rares lieux qui est encore ouvert. Et c'est aussi un lieu où la patronne, qui s'appelle Raymonde, est aussi une mémoire de l'histoire de cette ville, etc. Donc, il faut absolument y être pour comprendre d'où on vient et où on va. Et je crois que c'est ça, c'est soudain un endroit plus vivant que tous les autres endroits. C'est pas l'usine, c'est pas la maison, c'est une chose d'autre. Et dans cet autre, on retrouve ceux qui nous ressemblent et puis ceux qui sont capables de penser le monde autrement. Car tout l'enjeu est là. On nous, tout simplement, la propagande néolibérale et pour ne pas dire néo-fasciste, nous le répète tous les jours, il n'y a qu'une seule façon de penser le monde. Il n'y en a pas d'autre. Célèbre formule de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Donc, le capitalisme est la fin ultime de l'évolution humaine. Mais, bien entendu, qu'on peut penser le monde autrement. Et tout est fait pour nous empêcher de le penser autrement. Eh bien, dans des lieux comme à l'Espérance, justement, dans les discussions, dans les rapports, dans les amitiés, les amours, etc., on essaye de penser le monde autrement. Non seulement on essaye, mais on réussit à le penser autrement, parce qu'on est certain, tout simplement en soi, que rien n'est inéluctable. Et que, pour que ça ne soit pas inéluctable, il faut simplement s'engager, et pas s'engager simplement sur un plan politique, mais s'engager physiquement pour changer les choses. Et je crois que c'est vrai que c'est pour ça qu'il y aura, dans le roman, où il y a, comme je disais, c'est aussi un livre d'aventure, il se passe des choses terribles à l'Espérance, mais l'Espérance ne meurt pas malgré toutes les attaques qui seront menées contre ce lieu, et puis ils seront un certain nombre suffisamment déterminés pour faire renaître, j'ai envie de dire, l'Espérance dans tous les sens du terme.
Oui, d'ailleurs, je pense que l'association qui se met en place justement pour la faire renaître, ça s'appelle la Nouvelle Espérance, si je me souviens bien. Et il s'agit même d'élargir au-delà de l'aspect café, etc.
Il s'agit aussi de faire des concerts, des rencontres, de montrer des films, etc. Je veux dire, tout simplement, regardez, toutes les attaques actuelles contre le monde de la culture. Quand on voit comment toutes les subventions de la culture sont supprimées. On voit bien, c'est vraiment le modèle néo-fasciste par excellence. C'est-à-dire, on ne veut plus que ni on pense, ni on ressente quelque chose. On doit obéir, et c'est tout. Et ce modèle-là, moi je l'ai vu il y a très longtemps, en action en Autriche. J'avais été invité à faire une tournée avec mes films sur Antonin Artaud, et c'était le moment où il y avait un chancelier qui était un ancien de la Waffen, SS, ou peut-être de la Wehrmacht, peut-être que j'exagère, enfin en tout cas qui avait été là, et ils avaient là aussi supprimé toute subvention à la culture, et la culture c'était des pièces de théâtre folklorique et de chanter du yodel, c'était tout. Et bien ce que l'extrême droite, mais quand je dis l'extrême droite, c'est j'englobe l'ensemble des mouvements de droite actuels, parce que ils pensent tous la même chose, c'est d'empêcher de penser. Donc empêchons de penser, empêchons de faire, avec toujours cet argument extraordinaire, ce n'est pas populaire, tout simplement parce qu'il y a toujours cet a priori que les classes populaires seraient par nature vouées à l'ivrognerie et à la débauche, ou pour le dire en termes plus contemporains, à faire les mots fléchés du Parisien libéré et à regarder BFM TV. C'est ça. On ne peut pas penser que, justement, on s'adresse à une intelligence. Et on voit bien que c'est la grande crainte de tous les gouvernements, de gauche comme de droite, de voir l'intelligence populaire se mettre en œuvre. Vous avez cité Lippe. Lippe était un exemple extraordinaire. Le Larzac était un exemple extraordinaire. Le vote au projet constitutionnel de 2005 était un exemple extraordinaire. Les gilets jaunes ont été d'une certaine manière un exemple extraordinaire. Voilà, c'est ça la grande peur des gouvernements, que ce soit en France et partout dans le monde, c'est que soudain, il y a une conscience populaire qui devient une conscience de classe, qui devient une conscience politique, qui fait qu'on transforme le monde. Bon, en France, on sait bien que ce mouvement-là a été exprimé, incarné, magnifié à l'intérieur de la Commune de Paris. Voilà, donc c'est ça. Et moi, je pense que c'est un des combats qu'on doit mener. C'est un des combats. Le combat du savoir est un combat essentiel. Et surtout, de s'adresser aux femmes et aux hommes comme à des êtres intelligents. Et non pas comme les programmateurs de télé pensent, comme le disait la responsable de la fiction à TF1, elle disait, c'est bon pour ces cons-là. Ces cons-là, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est exactement ce mépris qui pèse sur nous et qu'il faut briser. Et encore une fois, pardonnez-moi de radoter, mais je crois que le roman est un moyen de briser ça.
Une question ou on passe à... Comme tu veux, Nicolas.
Bah, vas-y.
Je pensais
justement, on revenait un peu à l'imaginaire, mais aussi de perpétuer la conscience de tous les outils d'auto-organisation qu'on peut être ceux des classes populaires par le passé, c'est-à-dire les coopératives, tous ces outils-là qui ont existé et qui, en fait, ont été soit captés différemment et avec une espèce d'état-providence qui a fourni beaucoup de choses. On a fait un peu disparaître toute cette capacité d'auto-organisation qui ne demande pas grand-chose, ça ne demande pas beaucoup d'idées pour se remettre en place, mais c'est des choses qu'on peut retrouver un peu dans les AMAP, dans différentes choses comme ça. Mais ça, je pense que c'est essentiel de perpétuer cette idée-là que, en permanence et à tout moment, et il vaudrait mieux le faire le plus tôt possible, on peut s'organiser, on peut faire soi-même, enfin, ensemble.
Bah, le jour où toutes les associations qui fonctionnent magnifiquement en France se réuniront pour décider que, voilà, ça va changer et c'est fini, eh bien, tout changera, tout simplement. Voilà. Parce que on ne peut être admiratif quand on va aussi bien dans le nord, dans le sud, dans l'est, partout où on va. Quand on voit le fonctionnement de certaines associations, on se dit, mais c'est formidable ce qu'ils arrivent à faire, à la fois pour les cultures populaires, mais aussi pour l'agriculture, mais aussi pour les relations entre les personnes, etc. Je veux dire, moi, je crois beaucoup au monde associatif. Je pense qu'il y a là, parce qu'il y a justement, du côté notamment des partis politiques, une sorte de paralysie implicite qui fait que, mais je ne suis pas le premier à avoir dénoncé ça, qu'au bout d'un certain temps, seul l'intérêt du parti et de l'organisation prime. Le reste n'a aucune importance. Et donc on voit bien la limite que ça impose. Et je crois aussi que dans la situation actuelle, il y a d'une part le côté des associations, je dirais que de l'autre côté, il y a aussi la force syndicale, parce qu'on méprise et on sous-estime la force syndicale. Mais quels sont les deux grands dangers aujourd'hui ? Les deux grands dangers, c'est d'une part la montée des nationalismes partout dans le monde. Et quand je dis les nationalismes, c'est le néo-fascisme et le néo-nazisme, hein, parce que on peut aujourd'hui défiler à Rome en faisant le salut fasciste, ça ne dérange personne. On peut faire des saluts nazis aux États-Unis, en France, en Allemagne, ça ne dérange personne. Tout ça paraît tout à fait moderne, etc. Ça, c'est un danger. Mais ce danger-là, il est d'autant plus dangereux si on met en parallèle la croissance exponentielle des budgets militaires. Tout pour l'armée. Et donc, sans avoir fait de mathématiques, c'est pas très difficile de voir le résultat d'une addition entre nationalisme plus budget militaire. Donc, et quand on sait que le capitalisme s'est toujours sorti de ses crises par la guerre. Or, aujourd'hui, il y a un désir de guerre. Il y a un désir profond, il y a un désir qui est exprimé par les responsables politiques, mais il y a aussi un désir, je crois, qui est un vrai désir populaire, parce que tout plus que la précarité, tout plus que le RSA, tout plus que le RMI, tout plus que de l'action, de quelque chose qui nous fasse vivre, même si ça nous tue. C'est un combat essentiel de faire entendre ça et de dire que non, on peut s'organiser pour penser le monde autrement, pour le penser en dehors des catégories militaires et en dehors des catégories hiérarchiques. Il faut briser les hiérarchies, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient industrielles. Et l'auto-organisation, bah oui, ça demande de la vertu. Alors espérons que la vertu sera au rendez-vous.
Musique.
Oui, alors ça va être un petit peu décalé par rapport à ce qui vient d'être dit, mais il y a à Rossel une chorale de femmes, donc que vous avez évoquée tout à l'heure. Alors bien évidemment, je n'ai pas un enregistrement de cette chorale, j'en suis absolument désolée, mais dans leur répertoire, il y a la Semaine sanglante, et là, je vous propose d'écouter l'interprétation de Michel Bernard.
Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre. Et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne. On fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
La Semaine sanglante, interprétée par Michel Bernard. Dans le tour du monde... Non, je dis n'importe quoi, je bug. Dans Trou Noir, sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste.
Et donc, nous recevons, depuis 16 heures maintenant, Gérard Mordillat pour son roman « Les vivants et les morts, 20 ans plus tard », paru en janvier de cette année chez Calman Lévy. Alors, est-ce que les glottes rebelles dans 20 ans plus tard chantent la semaine sanglante ?
Absolument, elles chantent la semaine sanglante. Les glottes rebelles existent en réalité. C'est une chorale qui est à Saint-Julien-Molin-Molette, où j'ai tourné Mélancolie ouvrière. Et d'ailleurs, j'ai gardé le nom de celle qui est un peu la chef de chœur, qui s'appelle Rachel, et que ce sont des femmes que j'aime beaucoup, parce que je trouve que non seulement ce qu'elles chantent me plaît beaucoup, mais plus que ça, c'est une chorale totalement ouverte. C'est-à-dire, quand on y va, quand on va aux répétitions, il y a, bien sûr, celles qui chantent régulièrement, mais il y en a qui viennent comme ça. Il y a aussi des hommes qui viennent et qui chantent aussi. Et c'est ouvert. Il n'y a pas d'un seul coup... alors, on essaye de prendre les dispositions entre les sopranos, les basses, etc. Mais il y a une ouverture. Ça donne envie. Et notamment, je me souviens des séances où on se prépare au chant avec une femme formidable qui préparait tout le monde avant de chanter. Et c'était un plaisir total de faire ça avec elle. Moi, je chante comme une casserole, et donc j'essayais de ne pas trop chanter.
Pour faire remarquer.
Mais sans ça, c'était... Et c'est une chose merveilleuse.
Un grand bonjour aux glottes rebelles. Et si elles ont quelques enregistrements, elles peuvent les envoyer à Radio Libertaire.
Je pense plaisir. Qu'elles écoutent Radio Libertaire. J'en suis même convaincu.
Oh, les glottes.
Voilà, peut-être un point. On a eu beaucoup d'échanges sur la difficulté actuelle, y compris par rapport à il y a 20 ans, d'organiser des luttes, d'organiser, de vivre en fait.
Voilà, exact, c'est ce que j'allais dire, c'est de vivre, tout voilà. Simple.
Par rapport à des choses qui quand même se passent, c'est-à-dire il y a quand même des luttes, il y a quand même encore des syndicalistes, cèdent avec beaucoup plus de difficultés, ça dépend des secteurs. Je sais qu'on a des compagnons chez les cheminots, il existe encore des choses collectives, mais par rapport à tout ce qui peut se passer, il y a une importance qui existait déjà il y a 20 ans, mais qui est encore bien plus forte, c'est comment les gens vont avoir connaissance, je ne parle pas de ceux qui y participent, de ce qui se passe. Donc, les médias. Et d'ailleurs, là, tu traites un peu le sujet, à travers notamment le personnage de Florence, qui connaît bien, puisqu'elle est dans le journal local, ça s'appelle La Voix, je crois. Donc, si tu peux nous parler un peu de ça, ce là, parce que c'est quand même pas négligeable, que c'est ce que perçoivent quand même beaucoup de gens, c'est les grands médias, quoi, ce qui est
trop... Je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes des luttes, c'est justement d'affronter ce que Serge Halimi appelle un mur médiatique. C'est-à-dire que il y a devant tous ceux qui essayent de penser le monde dans d'autres termes que ceux qui sont admis par les tenants de ces médias majoritaires, il n'y a aucune place. Et donc, on ne permet pas de penser autrement. Et je crois que c'est ça la difficulté. Ensuite, dans 20 ans plus tard, par exemple, leur maman, elles font la grève, et Florence, qui est une journaliste, leur fait un peu la leçon en disant « Mais attendez, vous allez faire une manifestation, et comment vous allez manifester? Vous êtes combien? 200, 250, bon, vous serez 300 ?» Ça n'est rien, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie du combat, peut-être même tout le combat, se joue dans les images. Et que si vous manifestez comme ça, vous fournirez en réalité à ceux qui vous combattent des images pour vous battre. Parce que ça sera toujours de chanter la même rengaine, d'agiter des fumigènes, de... Voilà. Et donc, Florence a l'idée, il leur suggère l'idée qui sera adoptée, de manifester à la queue leu-leu, les unes derrière les autres, et de se taire, de ne rien dire. Et ça, voilà. Eh bien, voilà ce type d'initiative, il faut que ça apparaisse, parce qu'on voit bien l'utilisation qui est faite par les médias dominants, pardon, des images qui sont faites. Moi, je me souviens, après les grandes grèves des cheminots en 95 ou 96, Bernard Thibault nous avait réunis à quelques-uns cinéastes, et puis je crois qu'il y avait aussi Régis Debray, où ils avaient fait un montage de tous les journaux télévisés de TF1 et France 2 pour faire voir ce qui montrait des grèves. Et c'était effrayant, parce que c'était toujours pareil. C'était ceux qui tapaient sur des tambours, ceux qui agitaient des fumigènes, ceux qui disaient ta réforme, etc. Les marchands de merguez, les marchands de boissons, les machins. Pourquoi les gens manifestaient ? Pas un mot, ou quelques mots comme ça. Et s'il y avait une parole, c'était la parole de tel ou tel responsable syndical qui était là devant et qui disait trois phrases que tout le monde oubliait dans l'instant. Or, je crois qu'il y a une réflexion à mener de ce côté-là, de la part des organisations syndicales, de la part de nous tous, par rapport à comment nous manifestons, pourquoi nous manifestons. Est-ce que la manifestation, c'est simplement d'arpenter les rues de tel ou tel endroit, ou d'exprimer une colère, d'exprimer un refus, hein ? Quand on pense au sprinter américain Tommy Smith qui monte sur la première marche du podium à Mexico et qui dresse le poing dans le ciel avec un gant noir, eh bien, une seule image a suffi à dénoncer la condition des Noirs aux États-Unis. Il faut penser ça, il faut penser en images, il faut arrêter de simplement reproduire ce qui, au bout du compte, devient une sorte de routine de la revendication. Ces routines-là, elles sont peut-être nécessaires, mais elles sont plus efficaces. Donc, il faut que ça soit autre chose. Et l'autre chose, ça ne peut pas être simplement les black blocs qui sont là pour faire le coup de poing avec les flics ou faire le coup de poing avec je ne sais qui, simplement par distraction, pour s'amuser, parce que c'est une sorte de jeu, de provocation et tout. Donc, je pense qu'il faut avoir ça. Et je crois qu'un des grands problèmes que nous, c'est-à-dire nous qui sommes contre le capitalisme, avons à affronter, c'est effectivement ce mur médiatique qui empêche de faire entendre autrement ce que pourrait être le monde. C'est pas difficile discuter avec des amis, écrivains comme moi, les uns et les autres ont constaté, par exemple, que plus jamais, ni les uns ni les autres, quel que soit le succès de nos livres, étions invités en direct sur les chaînes publiques, par exemple. Pas de direct, on pouvait éventuellement faire une chose enregistrée, mais pas de direct, avec une telle trouille que d'un seul coup on dise quelque chose qui ne serait pas admis. Plus de direct. Quand on discute avec Frédéric Lordon, Frédéric ne veut plus aller nulle part, tout simplement parce qu'on ne lui laisse jamais le temps d'expliquer quelque chose. On veut bien qu'il dise une phrase amusante et puis c'est tout. Je crois que c'est aussi contre ça que nous devons lutter et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas, notamment sur la presse écrite, il n'y a pas suffisamment de textes de combat, que ça soit sur le papier, que ce soit sur les versions numériques, etc. Je veux dire, mis à part l'humanité, c'est très difficile de lire le récit des luttes contemporaines dans les différentes entreprises. L'Humanité, à mon avis, est à peu près le seul journal qui tient finalement une chronique très régulière de ces luttes. Dans Libération, ça apparaît de façon épisodique. Dans Le Monde, ça n'apparaît jamais, etc. etc. Donc, c'est ça, il y a aussi ce combat-là. Et c'est encore une fois pourquoi je crois et j'appelle de mes voeux tous les romanciers à se mettre à écrire ce qu'on ne peut pas lire dans les journaux, ce qu'on ne peut pas voir à la télévision, ce qu'on ne peut pas voir au cinéma. Eh bien, si la seule place qui nous est accordée est la place du roman, c'est cette place que nous devons occuper. Et encore une fois, si les romans ne se vendent pas, on peut toujours en faire des barricades, et on peut en faire des armes au sens réel du terme.
Oui. J'avais un complément, enfin, qui va tout à fait dans ton sens, mais non seulement les médias transmettent ce qu'ils veulent, évidemment, mais en plus, ils déforment. Et moi, j'ai un exemple que j'ai vécu, enfin, avec Radio Libertaire, et tu vois, donc c'est pas d'aujourd'hui, ça s'est surtout pas amélioré. C'était au moment des grandes grèves d'autonomie, les grèves d'OS, bon, enfin, t'as connu tout ça. Et il se trouve que moi, j'étais syndiqué dans la métallurgie, donc j'avais pas mal de contacts, moi, enfin, d'ailleurs, bon. Et donc, j'avais demandé qu'ils viennent témoigner et ils m'ont expliqué mais on veut plus les journalistes parce qu'à l'époque les journalistes allaient voir quand même, je te rappelle, ça avait quand même bougé hein. et puisqu'ils déformaient complètement leur témoignage. Et là, les, quand j'ai dit vous venez, ils sont venus une vingtaine, tu vois. Il y avait, je pourrais bien, enfin, je raconte toujours ça. Il y avait, je me rappelle un copain, je crois qu'il était algérien. Il s'est mis à parler arabe tellement il était content d'exprimer enfin directement quelque chose. Et c'est l'extrême droite le sait parce que il y a les grands médias dont on parle, mais aussi tiens. Tu en parleras toi parce que c'était un copain, quelqu'un que tu connaissais bien, qui a fait un travail sur Ménard. Et comment il a mis la main sur la parce qu'il y a aussi la presse locale qui a un rôle important. Bien sûr, hein. Tu peux en parler 30 secondes.
Oui,
ce que le film sur le film c'est Béziers.
Donc c'est un s'appelle Daniel Kupferstein et qui a fait un film sur Béziers, sur la manière dont Ménard a pris en main la ville, mais aussi la communication de la ville à travers le journal municipal. En dépensant beaucoup d'argent là-dedans et en faisant passer des tout un tas de messages absolument hallucinants.
Et en payant des gens qui savent faire, y compris dans les dessins, comme par hasard tous les enfants sont blonds, enfin tu vois, des petits trucs comme ça.
Avec les deniers publics hein, quand même, et distribuer gratuitement papier glacé, tout ça dans toutes les boîtes aux lettres. Quoi. Et c'est vrai que le film est assez édifiant pour ça, c'est-à-dire sur la fabrique d'un récit décidé par un type à son seul bénéfice, quoi.
Goebbels a été un très bon théoricien de ça.
Absolument. Et ouais, j'avais une réflexion par rapport à l'information, ce qui peut, enfin, je sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas, ça me semble un peu glaçant, c'est que ceux-mêmes qui se révoltent et qui peuvent faire grève, ça va pas forcément les empêcher non plus de s'alimenter en information dans ces mêmes chaînes,
Absolument.
Et autres.
Non mais moi ce qui me choque, l'autre matin j'étais je ne sais plus où, j'étais à l'hôtel et pour une fois je regarde la télé à 6h du mat pour voir les infos sur France 2. Et là il y a un type, journaliste j'imagine, qui parlait de la future grève de la SNCF le 8 mai. Il fait tout un discours sur les positions de la direction, sur là, il cite que les syndicats sont hostiles à ça, enfin qu'ils vont mobiliser, etc. Pourquoi les gens font la grève? Quel est le truc? Pas un mot. Et il n'y a personne autour de la table pour lui dire, mais dites-nous exactement au fond que réclament ceux qui proposent de faire la grève, comme si faire la grève était au fond une sorte de caprice qui était ça. Et c'est quand même absolument... moi, ça me fait sauter au plafond, parce que jamais on ne rappelle... Et il faudrait le rappeler à chaque fois que faire la grève, eh ben, c'est aussi perdre une partie de son salaire. Et surtout, c'est s'engager, non pas pour soi-même, mais pour le bien commun. Pour le bien commun, je veux dire. Et on devrait, ceux qui ne font pas la grève, on devrait, si la grève obtient un certain résultat, dire « Ben non, vous n'avez pas fait la grève, donc vous restez à l'ancien régime, c'est très bien. Puisque vous trouviez ça très bien, ben parfait, vous pouvez travailler 45 heures par semaine, il n'y a aucun problème. » Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on est toujours dans ça, mais enfin, je pense que il y a... et c'est là que... Il faut revenir toujours à cette idée de Marx que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. On est toujours dans ça. Alors, on veut nous dire qu'il n'y a plus de classe, qu'il n'y a plus de lutte, que tout est fini et qu'il faut être tous capitalistes et d'extrême droite. Mais c'est pas vrai. Le moteur de l'histoire, c'est ça. Et encore une fois, c'est l'idée d'agir non pas pour soi-même, mais pour le bien commun. Or, cette idée du bien commun, elle est combattue, mais quotidiennement, par la propagande télévisuelle, radiophonique et journalistique, sous le patronage du profit individuel. Voilà, c'est ça. C'est la grande victoire, ça serait le profit individuel. Ben pour moi, la grande victoire, c'est le bien commun. Et c'est ça qui nous sépare à jamais des gens que je combats.
Oui, juste...
Je pense qu'il y a aussi des belles choses à vivre dans l'action collective.
Enfin, justement, c'est ce qu'on a dit. Il y a des belles choses à vivre, il y a des amours à vivre, il y a des bagarres à vivre, et c'est exaltant de combattre pour quelque chose de bien. c'est quelque chose qui nous porte, qui nous fait vivre, qui nous donne envie de mettre un pied devant l'autre, voilà. Et puis de trouver des filles plus belles que jamais, et de trouver que la vie mérite d'être vécue, contrairement à ceux qui restent chez eux, et tout simplement à se regarder dans une glace avec un costume cravate.
Tiens, une phrase, je ne dis pas qu'il faut que tu la mettes dans un tel livre, mais celle-là, elle est de moi. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres qui va tout à fait dans le sens qu'on dit. Moi, quand les gens expliquent, bah oui, mais d'accord, mais bon, qu'est-ce que vous avez changé ? Regardez, la société, ça ne m'améliore pas. Moi, je dis bah, j'ai passé ma vie à essayer de changer la société, je n'ai pas changé la société, mais j'ai changé ma vie. Enfin, ça va tout à fait dans le sens que tu dis.
Absolument.
Ouais, c'était un peu pas le combat, mais une chose importante pour les individualistes, ce qu'on a appelé les individualistes à la belle époque. Alors aujourd'hui, on comprend le mot comme individu, perso, égoïste, mais ça voulait dire aussi que, bien sûr, il faut travailler à essayer de changer la société, enfin, voilà, à la révolution et tout ça, mais il faut aussi travailler à sa vie.
Bien
et
sûr,
il faut aussi réussir sa vie. Et effectivement, participer à des combats, je pense, et collectivement, je suis convaincu que ça contribue.
C'est la meilleure voie. C'est même peut-être la seule voie. Voilà.
On a encore 2-3 minutes. Si tu veux conclure.
Non, ben, moi, j'avais une question indiscrète à te poser. Tu n'es pas obligé de répondre. Je ne sais pas, moi, je verrais bien, pourquoi pas, un film, non ?
Peut-être. On est plus ou moins pour parler avec Arte pour que je puisse tourner, mais rien n'est fait. Et là aussi, l'hostilité dont on parlait tout à l'heure se manifeste. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais le faire parce qu'elle serait formidable. Parce que les acteurs qui ont joué dans Les Vivants et les Morts ont 15 ans de plus, ils sont toujours aussi beaux et aussi vivants, et ça serait une merveille de pouvoir à nouveau les filmer et les faire exister à l'image.
Et j'avais encore une autre question, alors celle-là elle n'est pas indiscrète. Moi j'ai beaucoup en moi, et en plus ce week-end en parlant avec des compagnons en allant, quand j'ai parlé quand on allait t'inviter, me dit, ah oui, puis moi je me rappelle du film Vive la sociale, est-ce qu'on peut encore le regarder quelque
oui,
part ?
Oui, je crois que Vive la sociale est sur le site des Mutins de Pangée.
Mmh. Ah oui, d'accord.
Oui, je suis à peu près sûr. Oui.
Ah, moi je le recommande vraiment, puis même y compris dans les acteurs, bon, on voit Claude Duneton, enfin on a plein qu'on voit. Enfin, c'est. Puis bon, puis l'histoire en plus, puis on voit Paris, enfin bon, enfin c'est dans le 20e, je crois, du côté
de c'est dans le 20e, c'est absolument dans le 20e.
Et moi, ça m'est beaucoup resté. Et un copain qui est plus jeune que moi, hein, mais. Alors je sais pas, il a dû le voir plus récemment que moi, mais. Tout de suite, il m'a dit, ah oui, vive la sociale, le film, etc. etc. Voilà. Et je pense qu'il y a d'autres de tes films, on peut se les procurer, parce que.
Sur les Mutins de Pangée.
D'accord.
Je me disais que sans rien divulgâcher, on pouvait lire le.
Oui, absolument.
Et je pense que ça, c'est conclusif et ça résume bien très positivement. Donc voilà, tiens, il y a un poème qui conclut le roman. Je lis. Donc, dans la fureur du temps présent, dans la nuit source, dans l'oubli, ils s'embrassent en silence. Qu'importe ce qu'ils endurent, leur courage ne cédera ni ne se soumettra jamais. Ils s'embrassent encore. Leur combat continue. Ils s'aiment. Ils n'ont plus que ça, à jamais différents de ceux pourvus de tout.
Je rejoins Franck Venaille.
Voilà. Bah écoute, on va te remercier d'être venu. Et puis Monique a la musique. Non,
et
Nicolas,
donc, non, j'ai d'autres petites choses à dire. Et donc rappeler donc que Gérard Mordia est venu présenter son roman Les Vivants et les Morts 20 ans plus tard, publié chez Calmant Lévy depuis le mois de janvier. Et on le remercie. Une information rapide sur ce qui se passe dans notre librairie fédérale, la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Aubercamp, République ou Fille du Calvaire. Ce dimanche 11 mai 2025, donc ce sera à 16h, la librairie Publico. Une rencontre organisée par le groupe Salvador Segui de la Fédération anarchiste. Et c'est à l'occasion de la réédition du texte intégral des carnets de guerre du capitaine Raymond Drone. Le capitaine Drone, c'était le capitaine de la fameuse Nueve, la 9e compagnie de la 2e DB de Leclerc, et qui était à majorité composé de républicains espagnols. Donc ce capitaine a écrit ses carnets de guerre, et ils avaient été publiés, ils sont republiés. Et donc à l'occasion de cette publication, le carnet de guerre s'appelle « Français libres et républicains espagnols contre le nazisme », les copains organisent une rencontre pour présenter ce texte et en discuter. Voilà, c'est l'association 24 août 1944 qui organise tout ça. Et donc, ce sera dimanche 11 mai 2025 à 16h à la librairie Publico. Voilà, c'est bientôt l'heure de nous quitter. Pour dire que après Trou Noir, vous pouvez retrouver Alex et les Mangeux de Terre. Et puis, pour Trou Noir, ce sera à la semaine prochaine. Bonne soirée.
Oui, bonne soirée à tous, et on va se quitter avec une superbe chanson de Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. Au revoir.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flamme orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.